France Inter. Le 7-10.
Mercredi 3 avril, bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le plus grand hôpital de Gaza, dévasté.
L'armée israélienne s'en est retirée après plus de deux semaines de combat. Les témoins sur place parlent de destruction et de mort. Les vêtements du petit Émile retrouvés par les gendarmes, mais toujours aucune certitude sur le scénario de sa disparition. Une étiquette pour comprendre l'empreinte carbone des vêtements, ça se concrétise. Et puis Lyon, en finale de la Coupe de France de football et des supporters aux anges.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50. Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous, mais qu'est-ce qui fait tenir une infirmière qui court depuis 40 ans dans les couloirs de l'hôpital Nord de Marseille? Réponse à 7h50 avec la lumineuse Madame Hoffmann, cadre dans un service d'oncologie. C'est dur, un service d'oncologie. Un documentariste de renom l'a suivi dans son quotidien, elle nous raconte.
À tout à l'heure, 8h20, grand entretien, événement aujourd'hui avec le réalisateur James Cameron à l'occasion de l'ouverture de l'exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque à Paris. 9h20, Léa Salamé reçoit Jean-Marc Rochette.
France Inter.
La bande de Gaza désormais quasiment anéantie après 6 mois de bombardements israéliens. Un exemple, mi-décembre, la moitié du réseau routier était détruite. C'est le cas aujourd'hui de 92% des routes. Voilà ce qui ressort d'un rapport publié par la Banque mondiale, les Nations unies et l'Union européenne. Les dégâts sur les infrastructures se montent à plus de 18 milliards de dollars, 97% du PIB de l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Les trois quarts des logements sont en ruine. Le système éducatif effondré, l'ensemble des enfants sont déscolarisés et actuellement 84% des équipements de santé sont détruits ou endommagés. Le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, considéré par Israël comme un centre de commandement du Hamas, est dévasté. L'armée israélienne vient de s'en retirer après 18 jours d'opération. Témoignage sur place recueilli par Thibault Lefebvre.
Al-Shifa, c'est, ou plutôt c'était, le cœur de la ville de Gaza. Aujourd'hui, l'hôpital est en ruine. 3 des 4 ailes de ce vaste complexe dont les urgences et la maternité sont inopérantes. Et puis il y a les cadavres. Saïd, un habitant du quartier.
Il y a tellement de morts et ces images épouvantables de tous ces corps découverts après le retrait des forces israéliennes de l'hôpital Al-Shifa. On a trouvé des corps jetés au milieu des poubelles et des membres humains éparpillés partout.
Vision d'horreur. L'armée israélienne a annoncé pourtant avoir aidé plus de 6000 civils réfugiés dans l'hôpital à s'enfuir vers le sud de Gaza. Des affirmations impossibles à vérifier. Mohamed n'habite pas très loin et pour la première fois depuis le début de la guerre, il envisage lui aussi de partir.
Honnêtement, notre tristesse est absolue. Je suis abattu par l'ampleur des destructions causées par les forces d'occupation israéliennes. Elles se sortiraient de l'hôpital Al-Shifa et de toute la zone environnante. Nous aussi, avec ma famille, on voudrait s'en aller. Quitter Gaza serait un soulagement.
Pour l'armée israélienne, l'offensive sur Al-Shifa est un succès. Elle a compté 200 miliciens présumés du Hamas et du djihad islamique morts et près d'un millier d'arrestations.
Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, où pour la 4e soirée consécutive, des milliers de manifestants ont demandé la démission de Benjamin Netanyahou, considéré par les familles des otages comme un obstacle à leur libération. Par ailleurs, l'indignation monte depuis la mort hier dans un bombardement israélien de 7 humanitaires à Gaza, leur véhicule détruit, un trou béant sur le toit, juste sur le logo de l'ONG World Central Kitchen. L'armée israélienne reconnaît ce matin une grave erreur. Benjamin Netanyahou parle d'un incident tragique. Le président israélien a présenté hier ses excuses sincères. L'ONG, elle, a suspendu ses opérations et dans la foulée, un bateau chargé de 240 tonnes de nourriture et qui était tout proche des côtes gazaouies a fait demi-tour. Dans l'actualité, ce matin aussi, ce puissant séisme près de Taïwan dans la nuit, le plus fort a frappé l'île depuis 25 ans. Les alertes au tsunami ont fini par être levées, mais il y a au moins 4 morts, des dizaines de blessés. Le tremblement de terre a été ressenti également au Japon. Les précisions de notre correspondante dans la région, Karine Nishimura.
Des immeubles affaissés, des appartements sans dessus-dessous, des éboulements de terrain. Le séisme de magnitude 7,5 survenu mercredi matin à Taïwan a provoqué sur l'île des dégâts qu'il est encore difficile d'évaluer totalement. La secousse initiale a également été ressentie, mais moins fortement, sur l'archipel japonais d'Okinawa. Elle a immédiatement été suivie d'une alerte au tsunami et d'ordre d'évacuation valant pour Taïwan, les Philippines et les îles d'Okinawa, où les autorités japonaises redoutaient initialement un raz-de-marée de 3 mètres. De nombreuses personnes se sont réfugiées sur des toits d'immeubles. Des vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport de Naha, à Okinawa. Le niveau d'alerte a ensuite été abaissé, puis annulé au Japon après l'arrivée par endroit d'un tsunami de moins d'un mètre. Shimonoseki, Karine Nishimura, France Inter.
Il est 7h05, le mystère reste entier, Anaïs, dans la disparition d'Émile.
On ne sait toujours pas comment et pourquoi le petit garçon de 2 ans et demi a disparu en juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernay, mais le saura-t-on un jour? Le procureur a annoncé hier soir que ses vêtements avaient aussi été retrouvés par les gendarmes dans la zone où ses os avaient été découverts samedi par une randonneuse, ce qui ne lève toujours pas le voile sur ce mystère, Mathilde Vinceneuve.
C'est à 25 minutes à pied de la maison de ses grands-parents, sur un chemin forestier qui avait déjà été ratissé, que le crâne d'Émile a été retrouvé, puis ses vêtements à 150 mètres en contrebas près d'un ruisseau. Entre la chute, l'homicide involontaire ou le meurtre, aucune thèse ne peut être privilégiée, a martelé le procureur d'Aix-en-Provence hier. Dans le village, pour les 130 habitants du Vernay, le doute persiste. Magali et Jean-Jacques possèdent une maison ici avec leurs 3 enfants.
On imagine que le corps a dû glisser avec, il y a eu des fortes pluies, il y a eu de la neige, c'est pas donc on reste sur toutes les hypothèses.
Certains éléments du discours du procureur font pencher pour la thèse accidentelle, d'autres éléments pour la thèse criminelle. Donc finalement, on est sans cesse ballotté. Ça rajoute un stress tant que la piste criminelle n'a pas été écartée. On est beaucoup moins serein à l'idée de laisser jouer nos enfants librement dehors, sachant que dans nos villages, il n'y a pas de clôture. Les enfants vont et viennent, passent d'un champ à un autre.
Il n'y a plus la même insouciance qu'il peut y avoir avant. C'est pesant.
Les recherches près du Haut-Vernay vont continuer tant qu'il le faudra, précisent les enquêteurs, alors que les ossements et les vêtements d'Émile qui ont été retrouvés font l'objet d'analyses poussées par les experts de la gendarmerie. Notre plus grande crainte, c'est de ne jamais avoir de réponse, glisse une habitante du Vernay.
Mathilde Vinceneuve, envoyée spéciale d'Interro Vernay avec Johanna Gabric. L'onde de crue se déplace maintenant vers le nord de Lyon, toujours en vigilance rouge et qui attend une montée très rapide des eaux sur le Serein et l'Armançon aujourd'hui. Des pics sont encore attendus aussi en Saône-et-Loire. La Côte d'Or, la Haute-Marne et l'Aube sont en vigilance orange. Et alors qu'on parle inondation, le gouvernement veut faciliter la construction de réserves d'eau pour les agriculteurs. La mesure figure dans le projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte reconnaît l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation au même titre que la défense de l'environnement. Il prévoit aussi des facilités pour l'installation et un allègement des sanctions en cas d'atteinte à la nature. Autre nouveauté dévoilée aujourd'hui par le gouvernement, l'éco-balise. Un étiquetage sur les vêtements qui doit permettre de comprendre rapidement quel est leur impact écologique. En attendant les étiquettes en boutique à l'automne, le ministère présente aujourd'hui le calculateur qui présente ce score. Le score d'un t-shirt, d'un pantalon ou d'une paire de chaussettes, Sandy Dauphin.
La note va de 0 à plusieurs milliers. Plus la note est élevée, plus l'article a un coût pour l'environnement. Le calculateur Ecobalise prend en compte le bilan carbone, la composition du vêtement, le nombre de cycles de lavage auxquels il résiste, mais aussi des critères plus précis, utilisation de produits chimiques, pollution microfibre ou consommation d'eau. Le collectif En Mode Climat regroupe plus de 500 entreprises françaises qui promeuvent une filière textile plus durable. Il a participé aux travaux pour élaborer la méthodologie complexe du calculateur, la présidente du collectif Julia Faure.
C'est un affichage qui, selon nous, remplit sa mission. Il donne une note relativement juste aux vêtements en fonction de leur impact environnemental, ce qui n'était pas le cas de la première version. Dans les toutes premières versions, on pouvait avoir un t-shirt en polyester fabriqué en Chine qui soit mieux noté qu'un t-shirt en coton fait en France. Parce que le polyester, si on regarde que l'impact carbone, ça est plutôt bien noté par rapport à du coton ou de la laine. Mais par contre, si on regarde le rejet de microfibres, bah là, le polyester, c'est vraiment pas terrible parce que c'est des microfibres qui se dégradent pas. C'est le principe même du plastique. Et donc, la méthode a été retravaillée de manière à tenir compte de différents éléments. En fait, les critères ne sont pas complexes, ils sont nombreux.
L'affichage sur l'impact environnemental des vêtements est prévu dans les boutiques pour l'automne. Il sera apposé par les fabricants sur la base du volontariat.
Et on précise que selon l'ADEME, le monde de l'industrie textile génère désormais plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Le ministre de l'économie persiste. Nous n'augmenterons pas les impôts en France, dit Bruno Le Maire dans une tribune au journal Les Échos. Il refuse toute taxe exceptionnelle, surtaxe, taxe temporaire ou de rendement. Gabriel Attal a annoncé hier la mise en place d'un groupe de travail sur la taxation des rentes.
Il est 7h10, c'est un triste podium. La France occupe la première place mondiale pour l'incidence du cancer du sein.
Et le Centre international de recherche sur le cancer donne aussi des perspectives inquiétantes pour l'avenir. En 2050, on pourrait compter plus de 20 000 décès annuels contre 14 700 aujourd'hui. Pour les médecins et les associations, il est donc plus qu'urgent de s'attaquer aux causes environnementales de cette maladie, Victor Dolande.
L'année dernière, 61 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés. Les facteurs qui favorisent ces maladies et qui sont mis en avant sont toujours les mêmes, le tabac, l'alcool et la sédentarité.
La maison brûle et on regarde ailleurs.
André Cicolella est toxicologue et président du réseau Environnement Santé.
La dimension environnementale reste assez largement ignorée, alors qu'on a des données scientifiques qui montrent que c'est une cause majeure. On a une publication qui vient de sortir sur la pollution chimique, on identifie 920 substances chimiques impliquées dans les cancers du sein. 920. Et donc l'enjeu, c'est d'agir en amont sur les facteurs qui initient effectivement ces cancers. Et donc on doit agir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour Patrick Fénichel, professeur émérite en endocrinologie au CHU de Nice, la prise en compte de ces facteurs environnementaux passe aussi par une meilleure formation des médecins.
À la faculté de médecine, au cours des études, les médecins n'ont très peu, voire quasiment pas de cours sur la médecine environnementale et ils ont très peu de notions de prévention. La prévention, c'est plus qu'un problème médical, c'est un problème de santé publique. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme à réaliser en France.
Dans quelques mois, la campagne de sensibilisation Octobre Rose fêtera son 30e anniversaire, l'occasion pour le réseau Environnement Santé de redéfinir la stratégie de lutte contre le cancer pour faire baisser enfin le nombre de cas.
Enquête et chiffres à retrouver aussi sur franceinter.fr. Elle est la première artiste à devenir milliardaire grâce à sa musique. Taylor Swift vient de franchir le seuil selon le magazine Forbes. En moins d'un an, sa fortune a gagné 360 millions de dollars en partie grâce à sa tournée mondiale. Enfin, qui du PSG ou de Rennes rejoindra Lyon en finale de la Coupe de France de football? Hier, les Lyonnais se sont imposés 3-0 face au dernier de Ligue 2 Valenciennes et se mettent à rêver de trophées. 12 ans qu'ils l'attendent. Christophe Vincent a rencontré hier des supporters en liesse.
La pelouse envahie par les supporters qui ont porté en triomphe l'entraîneur Pierre Sage à Décines où s'est replongé 20 ans en arrière.
Je supporte Lyon depuis 57 ans, c'est le peuple lyonnais.
Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça ouais, sur le terrain, l'invasion et tout. C'est une dinguerie, c'est énorme. C'est du bonheur, c'est beaucoup d'émotions. On les suit, on est derrière eux.
J'allais à Gerland avec mon père quand j'étais petit. C'est vraiment incroyable cette ferveur et tout. Tous les supporters sur le terrain à la fin, c'est vraiment la joie et on va tous être à Lille le 25.
Auteur d'un doublé, Alexandre Lacazette, l'autre Sage, n'a rien oublié.
Tout va très très vite, un jour on peut être en haut, l'autre jour tout en bas, mais on a été longtemps en bas et on a su maintenant utiliser cette force pour s'en sortir et maintenant on est beaucoup mieux, donc tant mieux.
Supporter nordiste, Pierre est sorti dépité.
On va descendre en national et malheureusement on a fait un match de merde, donc on a envie de se barrer et voilà, c'est tout quoi.
Pour les Lyonnais, destination Lille.
J'ai demandé à mon collègue de me trouver des places avec mon fils.
On essaie d'avoir les places et de se faire le week-end le 25 mai à Lille.
Si on peut, pourquoi pas.
On va tout faire pour en avoir en tout cas.
Peu importe l'adversaire, ajoute-t-il, on le battra. À Décines, Christophe Vincent, France Inter.
Et donc finale à Lille le 25 mai ce soir, 21h, PSG Rennes.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, au cœur de la fabrication top secrète du prochain livre de Salman Rushdie.